Pour la publicité ciblée, comme pour les campagnes électorales, les informations concernant notre activité en ligne sont très prisées sur le marché des données personnelles. Pour beaucoup, la sécurité de l'information et la protection des données sur Internet semblent certes être des sujets importants, mais souvent trop techniques, voire ennuyeux. Mais devons-nous nous résilier à laisser nos données personnelles à la portée de n'importe qui sur la toile? Informaticien français basé à Prague, Jérôme Poisson apporte une réponse. Selon lui, la perte de la vie privée n'est pas inévitable. Il s'agit d'un sujet préparé par Lucie Drexelova.
Panorama.
Panorama.
Admettons pour commencer que le thème de la protection des données personnelles n'est pas forcément très sexy. Peu de journalistes ont le talent et les moyens de John Oliver, animateur d'un programme hebdomadaire politico-humoristique à la télévision américaine Last Week Tonight, la semaine passée cette nuit, qui consacre pourtant régulièrement ses programmes à ces questions. Et cela ne l'empêche pas d'enregistrer des millions de vues sur YouTube. Même sans le charme de Oliver, essayons nous aussi de nous pencher sur ce sujet clé. Pour le côté technique, nous avons sollicité Jérôme Poisson, avec lequel les auditeurs de Radio Prague ont déjà pu faire connaissance à l'occasion d'un reportage sur l'ONG SourceFabric, son employeur du moment. Avec lui, nous avons abordé non seulement les problèmes liés à la protection des données personnelles, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi les alternatives possibles. En premier lieu, Jérôme Poisson explique le fonctionnement des grands réseaux sociaux.
Ces grands réseaux qu'on appelle gratuits ne sont pas gratuits. Enfin, leur but clair est connu, c'est de faire de l'argent. Et comment ils le font le plus souvent, c'est avec la publicité. Donc, ils vont recueillir le maximum de données sur leurs utilisateurs, les analyser et après leur proposer des publicités dites ciblées, c'est-à-dire qu'ils vont voilà être vraiment adaptés. Alors, pour prendre un exemple caricatural, quelqu'un qui dit « je vais aller passer en vacances à Marseille », il va aller avoir le jour d'après des publicités pour des boules de pétanque ou du pastis.
Ces réseaux sociaux nous connaissent bien. La plupart des internautes seraient véritablement surpris de découvrir l'exactitude et le détail avec lesquels nos préférences en tant que consommateurs et nos opinions en tant que citoyens sont connues des différentes entreprises privées actives sur le web. Nos données personnelles représentant un véritable trésor sur les réseaux sociaux, la question de la confidentialité se pose.
De plus en plus, on envoie des vidéos, des photos de ses enfants, par exemple, ou de ses amis, et on n'a peut-être pas envie qu'un inconnu puisse voir ses photos ou puisse éventuellement, parce qu'il y a aussi les histoires de conditions d'utilisation, puisse éventuellement les utiliser pour des choses qu'on n'avait pas forcément prévues.
Donc il n'y a pas des gens qui vous disent par exemple que « Ah non, mais moi j'ai rien à cacher, moi c'est bon ».
Ah si, si, bien sûr, ça c'est une des premières choses qu'on entend, c'est le rien à cacher qui pour moi c'est un manque de réflexion. Mais le but quand les gens me disent ça, c'est pas non plus de leur prendre de haut, c'est essayer de leur expliquer mon point de vue et leur expliquer qu'on a tous des choses à cacher, qui peuvent être bien sûr des choses évidentes comme des choses privées. Je sais pas, on peut imaginer des photos coquines avec son couple qu'on n'a pas envie qu'ils soient répandues sur tout le monde, mais ça peut être des choses dont on n'imagine pas non plus. Par exemple, un militant politique, il va naturellement faire peut-être plus attention parce qu'évidemment, le jour où il va chercher un emploi, son activité politique peut lui poser des problèmes. Maintenant, des choses auxquelles il ne pense pas forcément, c'est que même s'il fait attention à ses messages et qu'il n'enverra pas de messages par exemple sur Facebook, rien qu'avec ses amis, sa liste d'amis, on peut en déduire son opinion politique, voire son militantisme.
Il y a tout un tas d'acteurs potentiellement intéressés à nous espionner, que ce soit un conjoint jaloux, une entreprise rivale ou des services de renseignement. Au niveau macro, la tendance en République tchèque, comme dans d'autres pays européens, est à conférer aux services de renseignement de plus en plus de compétences qui leur permettent une surveillance massive des flux de données. Autrement dit, si auparavant les services de renseignement pouvaient, sous réserve d'obtenir une autorisation, espionner des personnes ciblées, aujourd'hui la tendance est à leur donner carte blanche pour une surveillance indifférenciée de tout le monde. Si l'efficacité de ces mesures dans la prévention des actes terroristes est douteuse, l'empiètement sur le droit à la vie privée apparaît très clairement. La gestion d'une vie de couple est sans doute une affaire à gérer personnellement. Ce n'est pas le cas pour l'espionnage de masse qui nécessiterait une mobilisation collective et coordonnée. Poser la question du sort des données personnelles sur Internet, c'est ouvrir la voie à un usage plus conscient et informé des outils de communication. En réponse à cette tendance, les grands réseaux sociaux ont introduit des modifications dans leur politique de traitement des données, même si rien ne change à leur utilisation dans un but lucratif. Il existe également des alternatives qui ne tournent pas autour de la publicité et qui ont fait de la confidentialité des données leur principe fondateur. La plupart fonctionnent sur les principes du logiciel libre qui les rendent libres d'accès, gratuits, téléchargeables en ligne, mais aussi transparents. Cela signifie que les amateurs d'informatique peuvent voir comment les programmeurs ont conçu un réseau, vérifier les principes selon lesquels celui-ci est structuré et, le cas échéant, proposer des modifications et améliorations. Il existe tout un tas de réseaux alternatifs et leurs auteurs se connaissent et coopèrent entre eux à l'occasion. Jérôme Poisson, quant à lui, a été à l'origine d'un réseau alternatif parmi les plus anciens. Son projet, appelé « Salut à toi », a été conçu en 2008. Nous lui avons demandé de le présenter.
Salut à toi, c'est un outil de communication. Alors, on peut voir ça comme un réseau social, parce que c'est un terme qui parle peut-être un peu plus aux gens. À la base, c'est ça. C'est un outil qui permet de communiquer soit publiquement via un blog, soit de manière un peu plus privée avec sa famille, ses amis, etc. Donc voilà, c'est un projet qui fonctionne sur différents types d'appareils. Ça peut marcher enfin, via un navigateur web, ça peut marcher sur un téléphone, ça peut fonctionner sur un environnement de bureau classique et qui permet donc de faire du chat, de faire donc du blocking comme j'ai dit tout à l'heure, du partage de fichiers. On envisage à terme de faire aussi de la vidéoconférence et ce genre de choses. Donc voilà, tout ce qui permet vraiment de communiquer. Et c'est aussi un outil qui permet de créer des outils. C'est-à-dire que une des idées du projet aussi, c'est d'avoir une base et de permettre de l'adapter aux besoins de gens, des besoins spécifiques. Alors ça peut être pour quelque chose de général, comme une université, une entreprise, etc. Mais ça peut être aussi des cas plus de niche, je voudrais dire. Par exemple, on a déjà été contacté par un alpiniste qui voulait faire une sorte de réseau social pour les alpinistes, où on accepterait il voulait accepter les gens uniquement sur invitation et ce genre de choses. Donc voilà, on a la base pour faire ce genre de choses particulières.
Le réseau Salut à toi se distingue des autres réseaux alternatifs du fait de l'existence d'un contrat social dans lequel sont énoncés ces grands principes, tels que l'usage du logiciel libre ou l'absence de censure de contenu sans demande de la justice. Le contrat social prévoit également la prise de décision par consensus et l'égalité des salaires, telles des questions qui se sont notamment posées depuis la transformation du projet à une association loi de 1901 en France. Pour ce qui est de la question de la publicité, les concepteurs de Salut à toi y sont opposés. Ils n'en veulent pas, ni sur leur propre site, ni pour promouvoir leur projet. Jérôme Poisson admet que ces choix ont un prix.
On est totalement contre la publicité. Et donc à partir de là aussi, on a pour le moment pris le parti, même si c'est très difficile, de ne pas communiquer via Facebook, Twitter. On n'utilise pas en fait les grands réseaux. On essaie d'utiliser principalement des outils libres. Et bon, ça nous pose des problèmes parce qu'évidemment, on est beaucoup moins connus. Mais voilà, pour l'instant, on se tient à cette ligne et on refuse d'utiliser les grands réseaux. Et on espère que le bouche à l'oreille et que nos idées et notre comportement vont inciter les gens à nous soutenir, à partager avec nous et à créer cette chose avec nous.
Le nom « Salut à toi » peut paraître familier à certains auditeurs, surtout aux amateurs de punk. Nous avons demandé à Jérôme Poisson de nous éclairer la genèse de ce nom.
D'ailleurs, le nom même « Salut à toi », en fait, c'était... déjà, c'était aussi un peu un pied de nez parce qu'on veut toujours des noms anglophones qui sonnent bien, très courts. Alors là, on a dit « Ok, on va prendre un truc avec un accent au milieu, on va mettre une majuscule, là, il y en a normalement, il n'y en a pas. » Enfin, c'était un peu plus pour s'amuser, se moquer de ce genre de nom. Mais c'est aussi une référence à un groupe anarcho-punk des années 80, les Béruriers Noirs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le jour où on a créé l'association, on a écrit au Béru Et on leur a dit, bon, bah, ça fait plusieurs années qu'on fait ce projet, on n'en avait pas trop parlé. Là, on va faire une association, ça va être quelque chose d'officiel. Est-ce que ça vous embête si on utilise ce nom, salut à toi, etc. Et on a une réponse très, très gentille qui disait que non seulement ils connaissaient ce qu'ils étaient tombés dessus avec le nom, et qu'ils aimaient bien l'esprit et qu'ils n'avaient pas de problème avec ça. Donc ça, c'était un message qui avait fait très plaisir.
Cela va bientôt faire 10 ans que Jérôme Poisson et son équipe travaillent sur le développement de ce réseau social alternatif. Pour faire avancer le projet, il a fallu faire preuve d'une certaine persévérance. Jérôme nous a fait part de sa motivation qui s'inscrit dans une ambition plus large.
Une des choses qui m'a beaucoup marqué, enfin j'ai pas connu évidemment, mais dans les événements de mai 68 en France, plus que les manifestations et toutes les choses qu'on connaît, c'est qu'il y avait des débats absolument partout, dans les universités, dans les usines, dans la rue, dans les métros, chez les gens. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais reproduire.
Comme disent les informaticiens, la technologie n'est pas neutre. Les différents dispositifs sur Internet peuvent impliquer des formes spécifiques de comportement. L'un de ces comportements encouragés, c'est le fait de dévoiler le plus d'informations sur soi et il convient d'en être conscient. La technologie abrite sans doute un paradoxe. Elle fait croire à tort qu'elle est très simple, notamment parce qu'elle est relativement facile d'accès et d'usage. Si en tant qu'usagers, nous nous résignons à ne pas vouloir en saisir les enjeux, le prix à payer pourrait être notre vie privée.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien.